Bonjour à tous et c'est un brief un peu spécial que nous vous proposons maintenant. Le secteur bancaire a connu l'une de ses semaines les plus délicates depuis longtemps avec la faillite de la banque américaine, la Silicon Valley Bank et les déboires de Crédit Suisse, deux événements qui rappellent aux investisseurs le douloureux souvenir de la crise de 2008. Alors aujourd'hui, y a-t-il un risque systémique dans le secteur? Quelles sont les similitudes avec la crise de 2008? Salim Nesba, présentateur de Tracker, le podcast des nouveaux investisseurs, en discute avec Serge Kouetbach, rédacteur en chef adjoint de l'Écho. Il était lui-même aux premières loges lors de la crise des subprimes.
Bonjour Serge.
Bonjour Salim.
Alors ça faisait longtemps que le secteur bancaire n'avait plus fait les gros titres de la presse et avec cette semaine un petit peu folle, on voit que de nombreux investisseurs, de nombreux suiveurs des marchés se sont remémorés un peu la crise de 2008 et surtout le jeu de domino qui avait suivi notamment la faillite de Lehman Brothers. Alors c'est des souvenirs amers pour beaucoup d'investisseurs, on pense notamment à ceux qui avaient mis des billes dans Fortis. Est-ce qu'on peut trouver des similitudes entre ce qui se passe actuellement et les prémices de la crise bancaire en 2008?
Oui, il y a quand même une différence fondamentale. Lors de la crise financière de 2007-2008, le problème venait surtout d'actifs toxiques massivement liés à ces crédits hypothécaires dits subprime aux États-Unis, donc des crédits octroyés à des gens qui n'avaient pas les moyens de se les payer, des actifs toxiques qui se trouvaient en fait dans de très nombreuses banques dans leur portefeuille. Ici, ce n'est pas la même chose. Cela dit, il y a quand même des similitudes. D'abord, il y a une hausse des taux d'intérêt, une hausse assez massive de la part des banques centrales. Côté américain, la Réserve fédérale a augmenté son taux de 4,5% en 12 mois. C'est énorme. Eh bien, une hausse comparable avait précédé aussi la crise financière de 2007-2008. Donc, on le voit à chaque fois, ça fait des dégâts. Alors, l'autre similitude, c'est le manque de confiance. Et là, c'est vraiment le nœud du problème, le risque de contagion. Quelle sera la prochaine pomme pourrie à tomber de l'arbre? On voit ce risque apparaître sur les marchés interbancaires. C'est un système à l'intérieur duquel les banques se prêtent entre elles. On peut comparer d'ailleurs ce marché à ce qu'on a vécu au moment de la pandémie. Vous rappelez votre voisin, toussait, vous disiez, il est contaminé, donc qu'est-ce qu'on faisait? On s'éloignait du malade. C'est la même chose pour les prêts entre les banques. Si elles ne se font plus confiance, elles ne se prêtent plus entre elles. Et on l'a vu cette semaine, les banques appliquent un taux de protection, un taux plus élevé pour se prêter entre elles. C'est le baromètre qui montre qu'une méfiance est vraiment en train de s'installer au cœur même du système bancaire international.
Mais pourtant, après la crise de 2008, on a mis pas mal de temps à un petit peu serrer la vis, notamment au niveau régulatoire. Est-ce qu'on a tiré de bonnes leçons de cette crise?
Oui, alors je l'ai dit, il n'y a pas vraiment, à proprement parler, de produits toxiques dans le portefeuille des banques. Par contre, il y a des produits qui sont devenus toxiques au sein de ces banques à problème. Prenons par exemple la Silicon Valley Bank. Donc ça, c'est une banque qui recevait des dépôts des entreprises tech de la Silicon Valley, d'où son nom d'ailleurs. Elle ne reprêtait pas ses dépôts comme l'aurait fait une autre banque classique. Non, elle les investissait dans des bons du Trésor américain. On ne peut pas dire qu'il s'agit là d'un actif toxique, mais il est devenu toxique. Les bons du Trésor sont devenus toxiques à cause de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Les positions massives de la Silicon Valley Bank dans les bons du Trésor ont vu les valorisations dégringoler de 15 milliards de dollars et c'est donc devenu un actif toxique. Alors on peut dire la même chose pour Crédit Suisse, l'autre banque en difficulté cette semaine. Crédit Suisse a fait un très mauvais investissement il y a quelques années dans Greensill Capital, un acteur financier britannique. Et en 2021, Greensill Capital a fait faillite et ça a été le début des déboires de Crédit Suisse. Donc ici encore, un actif devenu toxique, mais ce n'est pas un actif qui s'est globalisé ou qui s'est répandu à travers le système bancaire. Donc encore une fois, c'est la différence avec la crise financière de 2007-2008.
Donc on n'est pas encore dans un problème, on va dire, systémique. C'est pas tout le système bancaire qui va en payer les conséquences demain.
Alors non, pour l'instant pas en tout cas. C'est toujours une question de confiance dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a une autre source d'inquiétude. C'est la supervision bancaire qui, ici, a été clairement défaillante dans les deux cas que je viens de citer. Dans le cas de la Silicon Valley Bank, le risk officer de la banque, par exemple, était absent depuis avril de l'année passée. Plus personne n'avait la tâche de regarder les risques que prenait la banque. Or, KPMG, la société d'audit qui était chargée de contrôler les comptes, KPMG venait d'approuver les comptes 2022 sans rien dire sur les investissements massifs en bons du Trésor américain, alors que leur dévalorisation, je l'ai dit, avait déjà fortement commencé. Et donc là, on a vraiment un réel problème de contrôle. Chez Crédit Suisse, c'était pareil. Le régulateur américain a récemment remarqué des imprécisions dans les flux de trésorerie, des imprécisions présentes dans des rapports annuels depuis 2019. Or, une fois encore, les contrôles n'ont rien trouvé à redire. Ici, c'était l'auditeur PricewaterhouseCoopers. Année après année, PricewaterhouseCoopers a laissé ces imprécisions sans jamais tirer la sonnette d'alarme. Tout ça vient évidemment perturber la confiance, encore une fois, dans les contrôles même de ces établissements. Et ça c'est vraiment grave.
Autre chose qui peut paraître un peu grave aussi, on a entendu cette semaine que donc ces banques « too big to fail », donc trop grosses pour échouer, étaient aussi devenues « too big to save », donc trop grosses pour être sauvées. Ça allait demander trop de moyens. On allait peut-être encore remettre monsieur et madame tout le monde à contribution pour sauver les banques.
Alors, il y a eu un geste de la part des autorités américaines qui a particulièrement surpris les analystes. Les autorités ont décidé que pour la Silicon Valley Bank, on allait sauver tous les dépôts, quels qu'en soient les montants. Or, après la crise financière, tout le monde s'était mis d'accord que si une banque venait à s'effondrer, tant pis pour les détenteurs d'obligations de cette banque, tant pis pour les actionnaires, tant pis pour les propriétaires, ce n'était pas aux contribuables à payer pour les erreurs de la banque. Et pour les dépôts, on avait mis un plafond maximum. Or ici, qu'est-ce qu'on voit? Tous les dépôts de la Silicon Valley Bank seront sauvés, alors qu'ils n'étaient pas assurés d'ailleurs, et ce, quel qu'en soit le montant. Alors là, il y a un problème qu'on appelle en anglais le moral hazard, c'est-à-dire l'aléa moral. Qu'est-ce que les autorités feront pour les autres banques en difficulté? Est-ce qu'on va encore sauver tous les dépôts, quels qu'en soient les montants? C'est une vraie question. On a d'ailleurs vu jeudi le sauvetage d'une autre banque en difficulté, la First Republic Bank. Ici, ce sont plusieurs grosses banques américaines qui ont allongé des fonds, 30 milliards de dollars, placés comme dépôts pour remplacer les fonds que les clients commençaient à retirer. La Silicon Valley Bank a fait faillite. Elle n'était pas trop big to fail. La First Republic Bank ici ne l'était pas non plus, mais on a quand même décidé de la sauver pour éviter un effet boule de neige. Alors pour Crédit Suisse, là c'est carrément une autre affaire. On a là une banque dite systémique, donc vous l'avez dit, too big to fail. Et la question c'est de savoir si elle-même n'est pas too big to save. La Banque Nationale de Suisse a créé une facilité de crédit de 50 milliards de francs suisses, plus ou moins l'équivalent de 53-54 milliards en euros, pour alimenter Crédit Suisse en liquidité. Et déjà certains analystes disent que ce ne sera pas suffisant. On parle désormais d'un démantèlement de la banque, voire d'une reprise par UBS, la collègue suisse. Ici, on joue clairement dans une autre dimension, évidemment.
Dernière question, est-ce que pour monsieur et madame tout le monde, dans l'économie réelle, on peut craindre un impact de cette crise, un impact fort? On ne sait toujours pas si nos économies vont sortir de cette crise Covid et de cette crise de l'inflation par une période de récession, mais à Wall Street, on entend déjà ce mot sortir de la bouche de certains opérateurs.
Oui, tout à fait, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs. Pour le secteur de la tech, par exemple, c'est une véritable catastrophe. La Silicon Valley Bank, c'était la banque du secteur technologique américain. Certains parlent d'un blocage de 5 à 10 ans d'innovation technologique, donc c'est vraiment un vrai problème. Alors pour le reste de l'économie, tout est encore une fois une question de confiance. D'un côté, il y a les entrepreneurs qui peuvent se dire « Ouh là là, c'est l'orage, on est revenu dans une crise du style de la crise financière de 2007-2008, on sait que ça a débordé sur l'économie réelle, on va attendre que ça se décante un peu avant de continuer à faire des investissements. » Et on peut voir la même chose pour les banques. La confiance, elle est endommagée. Les banques vont regarder à deux fois avant d'octroyer un crédit. D'autant plus d'ailleurs qu'au vu des problèmes de contrôle dont je parlais, la surveillance des autorités va augmenter. Donc on voit donc encore une fois ce manque de confiance qui va peut-être percoler dans l'économie. Et ce, particulièrement en Europe, parce qu'il faut savoir que l'économie européenne est financée aux trois quarts par les banques et un quart par des capitaux privés. Aux États-Unis, c'est l'inverse, un quart seulement par les banques. Donc le problème pourrait, une fois encore d'ailleurs, toucher particulièrement l'Europe, comme on l'a vu après la crise financière de 2007-2008. Donc on revient avec cette même comparaison. Les problèmes de départ ne sont pas les mêmes, mais si cette confiance, encore une fois, dans le système bancaire continue à s'éroder, tout cela pourrait avoir un impact sur l'économie réelle.
Merci Serge pour ces éclaircissements. Moi, je vous invite à consulter notre site l'écho.be pour vous tenir informé des suites de l'actualité qui agite le secteur bancaire. Nous y reviendrons aussi dans notre journal avec une large enquête à découvrir ce week-end.
Merci à vous, Serge Kouadbak et Salim Nesba, d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve comme tous les jours à partir de 7h pour le brief.